Vous êtes sur le point d'écouter le premier épisode d'un des prochains podcasts d'LVDT Studio. Pour profiter de son lancement et découvrir le reste de la saison en avant-première, abonnez-vous dans votre application podcast ou inscrivez-vous à notre newsletter. Et pour découvrir nos autres émissions, rendez-vous sur LVDT Studio. Bonne écoute.
Bonjour, je m'appelle Caroline. Et je suis paumée.
Bonjour Caroline.
Bonjour Caroline.
Je voudrais comprendre, mais à chaque fois que j'essaye, ben, je suis encore plus perdue, égarée sur le rayon des objets trouvés. Et tous les soirs dans mon lit, cette question qui me tient éveillée, c'est quoi le féminisme en fait? Non mais c'est une vraie question, je vous le demande quoi, c'est quoi le féminisme?
Un truc de meuf, non?
Non mais c'est facile, c'est l'intersectionnalité du matérialisme transpositionnel en conjoncture à la fonction carrée du patriarcat.
De la merde !
Bienvenue dans Paumé, le podcast des gens qui ne savent plus quoi penser. Femmes, hommes, membres de la communauté LGBTQIA+, ou n'importe quelle autre lettre de l'alphabet, si tu voudrais comprendre mais que tu ne sais plus par où commencer, toi et moi, on est sur la même longueur d'onde. Je t'emmène à la rencontre de celles et ceux qui s'activent, et avec eux, je repars au début, au fondement, pour poser des questions parfois bêtes et essayer de vraiment comprendre les réponses. Bon, en vrai, je peux pas te promettre grand-chose, mais je peux te promettre des découvertes qui nous feront réfléchir, nous, les paumés. Et pour ce premier épisode pilote, je t'emmène voir Malvin, une amie qui s'est lancée dans des études de genre à l'UNIF l'année passée. Des études de genre, c'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle y a appris et est-ce qu'elle y voit plus clair depuis? J'ai plein de questions à lui poser.
Ça m'est arrivé de dire, j'ai repris des études en genre et on me dit, mais en genre, genre de quoi? De film? C'est les genres de la littérature, c'est ça? Alors d'abord, je demande et en général, les gens savent pas trop. Et puis alors, j'essaie d'expliquer, mais c'est toujours très compliqué ce que c'est que les études de genre. Un peu comme quand tu dis, c'est quoi le féminisme? Parce que plus t'en sais, plus c'est compliqué, moins c'est facile à expliquer.
Est-ce que tu serais paumée?
Eh ben, figure-toi, j'étais paumée avant, mais je le savais pas. Et plus j'en sais maintenant sur le féminisme, plus je suis paumée.
Ok, cool. Ok, ben ça me fait plaisir, parce qu'on est censé trouver des réponses ensemble. Donc si plus on cherche, plus on est paumée, on n'est pas rendu.
Bah, ça veut surtout dire que c'est un terrain super riche.
C'est pas faux.
Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, dans ce podcast, on commence par remonter le temps, pour découvrir un moment historique de la cause féministe qui a particulièrement marqué notre invité. Et pour Malvin, c'est la grève des ouvrières de la fabrique nationale de Herstal, à Liège, en 1966. Ici, les femmes les mieux payées gagnent 25 francs de l'heure, alors que leurs collègues masculins les moins qualifiés en gagnent 32. Elles n'ont aucune possibilité de promotion et n'ont pas accès aux formations internes. La petite Germaine, une ouvrière de l'usine, ne supporte plus ces conditions. Elle et ses collègues menacent de monter un mouvement de grève, dont la revendication se résume en un slogan percutant « à travail égal, salaire égal ». Pourtant, elle ne réclame qu'une augmentation symbolique de 5 francs par heure, consciente que leur combat est loin d'être gagné d'avance. En réalité, cela fait déjà 9 ans que l'égalité salariale est actée dans un des articles du traité de Rome, qui jettera les bases de la future Union européenne. Mais 9 ans plus tard, rien n'a changé. Alors à la FNR Stahl, on menace de faire grève. Rapidement, des négociations sont promises aux employés qui décident de reprendre le travail. Mais une semaine plus tard, le 16 février 1966, la réponse tombe. Les patrons ne veulent rien entendre. Et la grève est lancée. Celles qu'on appelait les femmes machines arrêtent tout et bloquent les chaînes de production. L'odeur infâme de l'huile de poisson imprègne encore leurs vêtements et leurs corps, recouverts de sueur à cause des températures des salles qui pouvaient atteindre les 50 degrés Celsius. Les visages de certaines sont couverts de crasse et leurs oreilles bourdonnent encore du bruit assourdissant des machines. Fatiguées et révoltées, elles s'organisent. Les patrons cherchent une solution et pour contourner la grève, demandent à leurs homologues masculins de les remplacer à la chaîne de production. Que ce soit par pure solidarité ou pour un autre motif, ceux-ci refusent. L'usine restera à l'arrêt. La nouvelle du mouvement se répand au-delà des murs de l'usine et la solidarité aux ouvrières grandit. Les commerçants et les voisins coordonnent la distribution de colis alimentaires pour ces femmes qui, pour défendre leurs droits, ne savent plus nourrir leur famille. Ce qui se joue ici, ce n'est pas seulement le sort des ouvrières d'Herstal, mais celui de toutes les ouvrières du pays. une manifestation est organisée à Liège qui rassemblera plus de 5000 personnes et qui regroupe des délégations d'ouvrières de Belgique, des Pays-Bas et de France. Le combat des Liégeoises est maintenant un combat européen. Il faut défendre le traité de Rome.
De France 75, c'était plus ou moins l'équivalent de l'inflation durant leur grève. Donc en fait, elles n'ont pas gagné grand-chose. Par contre, ça a été le début de quelque chose qui a pu aller plus loin. Je parlais d'Eliane Vogelpolski. En fait, c'est l'avocate qui, sans vraiment le vouloir, a foutu le feu aux poudres. Puisque je crois que c'était la FGTB qui avait fait une séance d'information sur les droits des travailleurs. Et alors, elle avait expliqué qu'il y avait ce fameux traité de Rome, article 119, qui actait que, normalement, il y avait l'égalité de salaire. Mais que c'était pas considéré... Enfin, je sais pas si elle le disait, mais en gros, c'était pas considéré comme un truc qui pouvait avoir un effet direct. C'était un peu comme quand on dit... En 2030, nous n'aurons plus de voiture. Mm-hmm.
C'était une promesse.
Voilà. C'est un truc un peu genre, c'est une visée, mais on se donne le temps d'y arriver. Et en fait, parmi les auditrices, une certaine Charlotte, qui est aussi à l'origine de la grève, elle a entendu ça. Et donc, ça a fait boule de neige. Et alors, Eliane Vogelpolski, elle a soutenu cette grève. Elle n'a pas réussi à faire passer... Enfin, ça n'a pas permis de faire avancer les choses. Par contre, elle a été d'autant plus déterminée. Quelques années après, il y a une hôtesse de l'air qui a été licenciée à 40 ans, comme toutes les hôtesses de l'air à l'époque.
Super article dans Médor sur le sujet.
Ah oui, bah oui, 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 tout à fait. J'avais lu. Et du coup, elle s'est saisie de l'affaire Dufresne pour justement retaper sur le clou et faire avancer justement les droits des femmes dans le travail. Mais j'ai repensé à cette histoire, parce que je trouve que ça lie le féminisme à d'autres sujets. Là, en l'occurrence, c'est les droits des travailleurs. Et alors, dans ta version, les hommes sont particulièrement solidaires. Mais en fait, elles se faisaient apparemment... Ils venaient les insulter parce qu'ils n'avaient pas de quoi faire. Enfin, ils n'avaient pas à manger. Et qui s'occupait des mouflets, en gros. Et une des raisons pour lesquelles elles auraient repris le travail aussi, c'était parce que justement, elles étaient peu soutenues à la maison. C'est une autre version de l'histoire. Qui sait qui
est la bonne. Il y avait sûrement un peu des deux.
Il y avait sûrement des deux.
À mon avis, au niveau des syndicats et donc des travailleurs, il faut défendre le droit des travailleurs, comme tu le dis, mais peut-être que la question était plutôt celle de la condition des travailleurs. Et puis à la maison, il y avait la condition
attends,
des femmes.
Attends, parce que le syndicat, il a quand même mis des semaines avant de reconnaître la grève. Elles n'ont pas été payées du tout aussi par le syndicat, parce que pendant des semaines, elles étaient toutes seules. Elles n'étaient pas reconnues par les syndicats. Donc ça aussi. Ce qu'elles ont fait, elles n'ont pas gagné grand-chose, mais elles ont réussi à créer suffisamment de bruit et d'informations pour que ça puisse faire faire de l'émulation. Et je trouve que ça aussi, c'est super important. C'est un peu ce qui s'est passé, par exemple, avec MeToo, parce que ça a l'air d'être un peu aussi un phénomène historique. C'est très, très récent, mais finalement, ça rentre déjà dans l'histoire. C'est que c'est pas juste... Ces histoires-là, en fait, on les connaissait. Ça m'embête toujours beaucoup quand on dit « la parole s'est libérée », parce que c'est pas vrai. La parole, elle s'est pas libérée. La parole, ça se disait, en fait. La plupart des histoires qu'on a découvertes avec MeToo, les gens autour, ils savaient. Par contre, ce qu'il y a eu, c'est que le fait que l'information soit devenue publique, les gens se sont rendu compte que, mon histoire, en fait, c'est la même que son histoire, et c'est la même que son histoire. Et du coup, c'est comme ça aussi, c'est par l'information, par le fait que les gens arrivent à créer une espèce de réseau autour d'informations, que les choses prennent de l'importance et que les combats peuvent avancer. Et donc, je pense que c'est ça, ce qu'elles ont fait là. C'était pas juste une grève dans une entreprise, une usine. Elles ont réussi à faire tache d'huile et en mettant assez d'intensité et en faisant assez de boucans que pour que d'autres écoutent ce qu'elles avaient à dire, qu'elles se fassent entendre et que d'autres s'y reconnaissent. Et du coup, ça a fait boule de neige. Et c'est ça que je trouve particulièrement important dans cette histoire de grève à la FNRSTAL.
C'est quoi pour toi le féminisme ? Là, maintenant, tout de suite, à l'instant T, peut-être que tu changeras d'avis dans un mois, parce qu'en effet, tu vas découvrir d'autres choses, mais si on te posait la question là, maintenant, tout de suite, c'est quoi pour toi le féminisme ?
Je dirais que pour moi, dans ma situation, mais c'est valable que pour ma situation, c'est gagner en analyse, gagner en questionnement permanent. Du coup, c'est aussi devenir un peu intranquille, et donc être toujours à l'affût de situations où je trouve qu'il y a des problèmes de traitement des gens.
Voir les inégalités ou quoi ?
Des gens. Eh ben, même inégalités, des inégalités, mais aussi des discriminations. Et,
tu fais une différence entre inégalité et discrimination ?
Oui. Alors ça, c'était justement un concept qu'on a vu dans un de mes cours. Si on compare deux situations parfaitement égales,
ouais,
y a une différence de traitement. Okay. C'est une discrimination. Par exemple, tu regardes un homme qui travaille à temps plein, une femme qui travaille à temps plein.
Il ne gagne pas le même salaire.
Il ne gagne pas le même salaire, c'est une discrimination.
D'accord.
Sauf qu'en fait, en amont, il y a déjà une inégalité, puisque quand tu regardes le nombre de personnes qui sont à temps plein et le nombre de personnes qui sont, par exemple, en temps
partiel,
il y a beaucoup plus de femmes. Donc il y a une inégalité déjà à la base.
Je crois que je comprends la différence.
Voilà.
Donc, il y a une inégalité parce que, globalement, il y a plus de femmes qui travaillent à temps partiel qu'à temps plein, mais ce n'est pas une discrimination en soi, c'est une inégalité dans la répartition qui est peut-être liée à des discriminations ailleurs, mais qui est là. Et puis après, par contre, si on les prend à égalité, ils ne gagnent pas la même chose, et ça, c'est une discrimination.
Voilà. Okay. Je crois qu'on peut réviser.
C'est pas mal. Moi, en tout cas, j'ai l'impression d'avoir compris un truc,
ouais.
Et ça fait 3 minutes qu'on est là. Et donc, je suis contente.
Voilà.
Alors, j'ai envie de tester un truc avec toi. Moi, il y a un de mes podcasts préférés qui s'appelle The Guilty Feminist. Je ne sais pas si tu connais.
Non.
C'est un podcast anglais d'humoristes anglaises qui sont des féministes coupables. Et elles ont un petit jeu qui s'appelle I'm a Feminist, But.
Mm-hmm.
Alors, je t'en ai préparé un petit pour moi. Et puis après, je te demanderai de toi compléter la phrase. Donc,
d'accord.
C'est Je suis féministe, mais. Et du coup, moi, c'est Je suis féministe, mais je réfléchis souvent au Botox quand je me regarde dans le miroir.
Mm-hmm.
Et toi ?
Ah, c'est difficile parce que pour moi, c'est même pas du tout... Enfin, ton exemple me fait juste dire que c'est pas forcément incompatible.
Mais c'est ça qui est intéressant.
Eh ben, je suis féministe, mais j'achète encore parfois des trucs sur Zalando.
Et pourquoi c'est pas féministe ?
Parce que pour moi, alors le féminisme englobe des choses tellement larges que ça engloberait aussi, à mes yeux, en tout cas, tout ce qui est écologie.
Ok.
Et du coup, ouais, c'est vraiment un gros guilty pleasure, vraiment acheter des trucs. Et alors même, je dirais même que c'est peut-être ça encore pire.
Attention.
Le pire, vraiment le gros guilty, c'est que je suis féministe, j'achète des trucs sur Zalando et j'essaie de le planquer à mon mec.
Oh !
Ça, c'est encore pire, je crois.
Et pourquoi tu lui planques ? Il est plus féministe que toi, c'est
non,
ça ?
Non, 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 mais il est sans doute beaucoup plus écolo.
Ouais, ok. Et donc, l'écologie, ça fait partie du féminisme pour toi ?
En tout cas, ça rentre dans toute une réflexion écoféministe. Les écoféministes, elles tirent un grand fil rouge entre le fait qu'on appauvrisse la terre et le fait qu'on rende aussi les personnes esclaves, y compris les femmes et avant tout les femmes. On se rend compte par exemple que dans les personnes qui vont être les plus touchées par les dégâts climatiques, ce seront évidemment d'abord les populations pauvres et dans les populations pauvres, ce seront bien évidemment premièrement les femmes. Et c'est souvent elles aussi, alors évidemment dans mon couple c'est juste l'inverse, mais c'est souvent elles aussi qui ont une conscience écologique beaucoup plus accrue. Alors ça va de pair ou pas, ça dépend un peu des situations, mais ça va souvent de pair avec le fait que ce sont souvent elles qui s'intéressent à tout ce qui relève du care, donc de prendre soin d'autrui au sens très large, et donc aussi prendre soin de la terre. Et je pense que c'est très difficile de vouloir se battre pour les droits des femmes avec un F qui reprend plus que ce qu'on peut imaginer quand on dit une femme, c'est. Et ça reprend aussi les droits de la planète, en fait, et des animaux. Et enfin, à mon avis, c'est beaucoup plus large que juste défendre le droit des femmes.
Ok, et donc tu t'identifies comme une écoféministe ?
Je suis sensible à ce qu'elles disent. Je ne m'identifie pas à grand-chose pour le moment, parce que comme je te dis, je suis paumée et je suis en recherche de... J'essaie de savoir ce qui m'intéresse, j'essaie de savoir dans quoi je me reconnais. Je fais un peu mon marché un peu partout, dans plein de manières de penser différentes. Et je ne peux pas dire que je suis écoféministe plus qu'autre chose, mais en tout cas, je trouve qu'elles ont un discours intéressant et voilà.
Depuis quand est-ce que tu te dis féministe ?
Alors ça, c'est très drôle, parce que je croyais que j'étais féministe quand j'étais ado. Et en fait, je me rends compte que j'étais exactement ce que je ne considère absolument pas comme du féminisme. Ça veut dire, en gros, j'étais la première à dire « Ouais, une telle, franchement, c'est vraiment nul. Si elle était un peu plus comme ci, si c'était un peu plus comme ça, ce serait quand même mieux. » Je me sentais féministe parce que j'étais avec les mecs et que je trouvais ça cool, quoi. Genre, okay. Moi, je suis pas juste une petite meuf qui met des petites robes, tu vois. Ouais, c'est vraiment tout l'inverse, en vrai. C'est justement se dire que... En
fait, c'est pas être un mec que c'est d'être pas être... féministe.
Exactement. C'est pas être un mec et du coup, écraser les autres pour exister. C'est un peu le syndrome de l'abeille, tu vois, la reine de l'abeille. Ouais.
Le miel et les abeilles.
Voilà, on voit de quoi. Et donc, moi, j'étais persuadée que j'étais féministe dans le sens où, ouais, on a qu'à se battre pour avoir ce qu'on veut, et puis on l'a, et puis en fait, c'est pas du tout comme ça que ça se passe dans la vraie vie.
Quand est-ce que t'as fait ce switch, du coup, de te dire, non, en fait, je le suis pas vraiment?
Eh ben, je pense que ça a été super progressif, mais je me rappelle d'une soirée, ici à Liège, et... J'avais envie de parler avec une fille que j'apprécie, mais qu'on se voit pas souvent et je savais pas comment amorcer la discussion. Et j'ai fait un gros ragot, parce que c'est bien connu, les gros ragots, ça rapproche. Et elle m'a regardée et elle m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? En fait, ça, j'avais dit un truc sur une autre meuf, quoi. Elle m'a dit, mais pourquoi tu dis ça? En fait, tu connais pas la situation. Je dis, bah quoi, tu la connais? Elle me fait, ben non, mais justement, je la connais pas. Et j'ai pas envie de taper sur la gueule de cette fille-là. Et là, je me suis dit... Alors, c'est vraiment très con, parce que c'est ce genre de truc que tu peux très bien arriver à te dire tout seul, mais venant d'elle, en sachant qu'elle avait aussi des acquaintances avec le milieu féministe et que c'était aussi ça qui m'intéressait, je me le suis vraiment pris comme un « Ah ouais, ah ouais, ouais. » Alors, c'est bien beau de vouloir être sympa avec une autre meuf, mais si c'est pour taper sur une troisième dans l'histoire, ça n'a pas de sens.
Et à partir de ce moment-là, tu t'as commencé à te poser des questions sur...
En vrai, je pense que ma vraie réflexion féministe, elle a d'abord commencé, j'étais en première à l'UNIF, j'avais notamment lu tous les Despentes, tous les Virginie Despentes au niveau de la fiction, et j'avais pas du tout envie de lire un essai, je voulais de la fiction, et puis à un moment donné, j'aimais vraiment bien cet auteur et j'avais tout lu, donc je suis arrivée sur l'essai. J'ai lu King Kong Theory et je me le suis pris dans la gueule, mais puissance 1000. Et puis je sais pas pourquoi, alors que j'ai vraiment vécu ça très très fort, je me souviens avoir balancé le livre de l'autre côté de la pièce, puis être retournée en me disant non quand même. En fait, si ça produit des telles réactions en moi, c'est qu'il y a un truc à aller chercher.
T'as commencé le bouquin, tu l'as balancé à travers la pièce.
J'étais assise dans mon lit, en gueule de bois, et je revois exactement ma petite chambre de côte à cette époque-là. Je l'ai balancé à côté de mon lit en me disant mais c'est quoi ce truc?
C'est quoi qui t'a fait dire ça à ce moment-là, tu t'en souviens?
Ouais, je me souviens très bien. C'est le moment où elle explique qu'elle s'est fait violer, mais qu'après tout, elle avait lu un bouquin, je crois que c'était un fanzine d'une américaine, où elle dit qu'après tout, on s'en remet. Et je me souviens, elle me dit, mais putain, mais quelle insulte à toutes les meufs qui s'en remettent pas, quoi. Et puis, je me suis dit, attends, qu'est-ce qu'elle veut dire exactement? Parce que si elle est concernée c'est et ça. Qu'elle dit ça, c'est qu'il y a quelque chose derrière.
Elle a le droit de le dire.
Voilà.
En gros, ouais.
Et du coup, j'ai quand même continué à lire et je me suis dit, mais en fait, non, c'est tout l'inverse. C'est hyper libérateur, c'est porteur d'espoir, c'est retourner la victimisation, c'est changer la honte de camp. Enfin, c'est une phrase toute faite, mais c'est... Enfin, voilà, moi, c'était la première fois que je l'entendais comme ça, que je le voyais comme ça, etc.
Quel courant féministe ressemble le plus?
En fait, quand j'ai commencé à étudier dans ce master, je trouvais les écrits des féministes matérialistes françaises vraiment super intéressants.
D'accord.
Vraiment.
Mais alors, du coup, je vais t'arrêter tout de suite parce que c'est quoi une féministe matérialiste?
Comment est-ce que je vais dire ça sans dire de grosses conneries, moi?
Tente un truc.
Alors, déjà, matérialiste parce qu'elle relie ça à des faits très matériels.
D'accord.
On parlait tout à l'heure de l'égalité ou plutôt de la non-égalité du salaire. Ben voilà, ça fait partie des gros enjeux des féministes matérialistes. Mais en gros, par exemple, si on reprend Christine Delphi, elle va expliquer que c'est vraiment l'enjeu primordial dans la société, c'est la différenciation et la hiérarchisation des genres. C'est-à-dire que hommes et femmes, selon Christine Delphi, ne sont pas égaux dans la société et c'est à cause du genre. C'est parce qu'on a un jour décidé que les hommes et les femmes n'étaient non seulement pas égaux, mais en plus n'avaient pas accès aux mêmes choses dans la société. Et donc, ça a des répercussions hyper matérielles dans la vie de tous les jours. Par exemple, la différence de salaire des hommes et des femmes, mais aussi la différence de reconnaissance de compétences.
Donc, des faits hyper concrets.
Très concrets.
On n'est pas dans la philosophie, on est dans l'espèce du truc mathématique, quoi.
Voilà, c'est ça.
C'est ça, donc ça, cause causalité, bam, et donc il y a des conséquences et des impacts voilà. qu'on sait voir, quoi. Okay.
Et alors, c'est aussi un courant qui est quand même héritier du marxisme. Donc ça arrive, okay. c'est dans les années 70. Il y a le MLF qui émerge, et donc avec Monique Wittig, Christine Delphi, entre autres. Et donc ça, c'est vraiment mouvement de libération des femmes en France. D'accord. Et donc c'est vraiment un truc, en tout cas dans notre culture européenne francophone, c'est vraiment genre par là qu'on commence, quoi. Et donc c'est un courant très à gauche qui essaye de penser vraiment la société dans ses aspects les plus tangibles, quoi, okay. au niveau du féminisme. Donc, moi, j'étais vraiment très séduite par ça. Et alors, ça suit un peu un ordre chronologique, hein, les cours qu'on a de temps en temps, quand même. La philosophie aussi. On va voir aussi du côté des Américains et des Américaines. Et du coup, je dois bien avouer que même si ça ne me parle pas de la même manière, si ça ne me prend pas au trip parce que je me sens moins concernée, je suis vraiment très intéressée par tout ce qui est théorie plus queer. Mmh. Eh ben, j'avais à l'époque que je faisais mon mémoire là, j'avais essayé de lire du Judith Butler. Enfin, je trouvais que c'était impossible à lire. J'ai eu ce bouquin qui a traîné dans mes toilettes parce que je le lis aux toilettes, qui a traîné dans mes toilettes pendant longtemps sans que j'arrive à comprendre deux phrases d'affilée. Okay. Voilà. Et du coup là, j'ai pu étudier un peu plus Judith Butler et je trouve par exemple que c'est vraiment hyper intéressant parce que elle, ce qu'elle dit, c'est que le genre n'est pas quelque chose qui nous oppresse, mais c'est quelque chose qu'on construit soi-même et qu'on performe. Et qu'on peut s'en emparer, en fait. Il y a toute une pensée qui est complètement différente, qui me touche peut-être moins, parce que ça touche à des questions de gens, par exemple, qui ne se ressentent pas, enfin, c'est même pas le bon mot, ressentir, mais qui ne vivent pas les mêmes oppressions que moi. Donc, je ne m'identifie pas de la même manière, donc je le ressens peut-être moins dans mes tripes, mais d'un point de vue philosophique, je trouve que c'est vraiment très intéressant.
C'est étonnant, parce que ça fait deux fois que tu me parles d'auteurs que tu as rencontrés dans ton parcours.
Ouais.
Et donc, ce que tu as retenu, c'est l'aspect libératoire de quelque chose qui n'est pas censé l'être.
Ah, mais carrément. Ah, mais alors, je ne sais plus comment je t'ai expliqué ce que c'était pour moi le féminisme, mais pour moi, c'est vraiment ça. C'est se poser des questions pour pouvoir déconstruire des choses et s'en émanciper. Après, pour être tout à fait honnête, je ne sais pas si l'émancipation te donne un sentiment de liberté. Moi, j'ai l'impression qu'au contraire, tu te sens tout le temps un peu plus acculé à des choses que tu vas devoir combattre. Mais
toujours un peu plus responsable, quoi.
Toujours un peu plus responsable. Et du coup, t'as aussi ce poids de la responsabilité, parce que maintenant, tu sais, tu peux plus faire semblant. Mais
ça, c'est comme le climat. Maintenant,
ah, oui.
On peut plus faire semblant.
Exactement.
On n'a pas 12 ans, les gars.
Voilà, exactement.
Je sais pas si vous avez remarqué, on peut plus faire semblant.
Voilà. Et donc, du coup, oui, on peut plus faire semblant. Donc, c'est lourd à porter sur les épaules, mais c'est aussi une bouffée d'air, parce que tu te dis... Ah ok, ce que je ressentais jusque maintenant, de la colère, des choses qui vraiment m'embêtent, pour pas dire autre chose, je comprends mieux les mécanismes.
Je suis tout à fait d'accord avec toi qu'il y a d'abord il y a une émotion que tu ne sais pas gérer, qui est une colère et que tu ne comprends pas. Puis qu'à un moment donné, tu te mets sur un chemin pour essayer de comprendre et que tu découvres plein de choses et qu'il y a un côté... Et je trouve ça super intéressant ce que tu dis, que l'émancipation n'est pas le sentiment de liberté, mais plutôt un... peut-être une perte de respiration, mm-hmm. un moment où ta respiration, tu comprends enfin, mais c'est pire que ce que tu pouvais imaginer.
Exactement, je suis tout à fait là-dedans.
C'est comme, tu sais, les étapes du deuil.
Ouais.
Et il y a un moment donné, tu passes de « Ok, maintenant que je sais, je peux faire. Mm-hmm. » Parce que dans ce truc de « c'est pire que ce que je pensais », il y a l'impuissance. Et l'impuissance est terrible. Mais cette impuissance, tu peux la transformer en une espèce d'énergie vitale à partir du moment où tu te dis « Ok, et maintenant, qu'est-ce que j'en fais ?» Et donc, c'est un espèce de chemin, mais il est vachement douloureux. Mmh. Et il n'est pas plus simple au moment où tu commences à prendre l'action, mais au moins, tu as l'impression d'avancer quelque part, quoi.
Ouais. Ça fait partie des choses que je crois comprendre sur moi, c'est que je ne suis pas particulièrement optimiste.
C'est difficile de l'être pour le moment, à ce moment-là.
Mais donc, du coup, j'avoue, moi, je reste encore fort dans... Je suis encore en train de broyer un peu du noir, même si je vis une vie où tout va bien. Hein, je ne suis pas en train de dire que je vais me pendre, pas du tout. Mais je sens bien que je ne mobilise pas encore cette énergie vitale. Par contre, je vois des filles qui le font. Et purée, mais qu'est-ce que je trouve ça génial, quoi. Pas plus tard que hier, je découpais des... Je découpais dans des photos d'affiches que je trouvais trop bien. C'est Nantes, Nantes révoltée. Mais complètement,
quoi.
Mais complètement. Mais je trouvais que c'était génial. Le graphisme était top, les phrases étaient simples. Et donc je me le collais, tu vois, en mode je vais puiser de l'énergie là-dedans, c'est top ce qu'elles font. Mais j'ai pas encore trouvé, moi, mon chemin.
Venir. Voilà. Anaïs Bourdet, elle fait des affiches de ce genre-là aussi, qui sont toujours pas mal.
Ah,
tu vois qui est. Elle a fait Paye ta Schneck.
Oui, évidemment. Ah oui, oui.
Elle est top. Et elle fait des trucs de fou.
Bah, Paye ta Schneck, d'un point de vue graphisme, était canon.
À tout point de vue, oui. Paye ta Schneck, et ça a fait des petits, hein.
Ouais.
Qu'est-ce qui est important de comprendre de ton féminisme à toi ?
Waouh ! Que beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sont liées, sont intrinsèquement liées, et que c'est pas toujours facile de faire les liens, mais une fois qu'on commence à les voir, c'est difficile de plus les voir.
Tu vois ? Pas revenir en arrière, quoi.
Voilà. Mais par exemple, donc si on reprend cette idée de... Au départ, j'étais très séduite par les féministes matérialistes. Il y avait plein de trucs, je dis « Ah ouais, elles ont trop raison, ouais, elles ont trop raison. » Et puis en fait, tu commences à gratter et tu vois qu'il y a d'autres types de féminisme, notamment des féminismes qui disent que ça, c'est du féminisme de la gentille blanche bourgeoise qui comprend pas que ses problèmes, en fait, c'est les problèmes seulement de ce type de personnes-là. Et que, je sais pas moi, une femme africaine, américaine n'a pas les mêmes problèmes. Et que, en fait, du coup, elle a des problèmes liés au racisme aussi. Elle a des problèmes pas seulement liés au sexisme, mais au racisme et à d'autres choses. Pour peu que, par exemple, je sais pas moi, soit une personne en situation de handicap, elle est aussi victime de validisme. Et que, en fait, tout est lié et que tout engendre toujours plus de questions. Et je pense que ça, c'est vraiment super important, se dire que on n'a jamais trouvé une solution. Il y a toujours plein d'autres petites portes à gratter et que c'est super important. Ça, je pense que c'est vraiment... le truc que moi, je retiendrai. Ça aide à sentir plus paumée, hein, ouais.
Non, ce que tu... En fait, ce que tu dis et ce qui est hyper important, c'est qu'il n'y a pas de vérité toute faite.
Et il n'y a pas de vérité toute faite, et même quand tu te la fais, en fait, c'est pas la même que celle de demain.
Voilà.
Parce que tu vas rencontrer une autre personne qui va te dire gentiment, encore une fois, « Attends, je prends le miroir et je te montre ce que tu es en train de dire. » Et tu fais « Ah putain, la connerie que je viens de lâcher. »
Mais du coup, à quoi est-ce que tu peux te raccrocher ?
Peut-être que le point commun, c'est de pouvoir écouter la personne qui est en face. Moi, je pense que c'est ça. Savoir s'écouter. Et alors, s'écouter, même quand on n'est pas d'accord. J'ai l'impression d'être Barbie, Miss Univers.
Savoir t'écouter quand on est la paix dans le monde,
exactement,
s'il vous plaît.
Exactement. Ouais, mais ça, c'est un truc... Ça, je pense que c'est vraiment quelque chose que je disais avant, mais que je pense beaucoup plus. Pouvoir s'écouter les uns les autres... Même si on n'est pas d'accord, voilà, se comprendre. En tout cas, respecter le moment de discussion. Après, si tu peux pas piffer la personne en face, c'est pas grave. Mais je veux dire, le moment de discussion est vraiment tellement important pour continuer à faire évoluer sa pensée et pouvoir tisser des liens et pouvoir continuer à avancer. Je pense que vraiment arriver à s'écouter et à essayer de comprendre ce que l'autre vit est vraiment important. L'empathie en fait, c'est ça.
L'empathie, le respect, j'ai l'impression. Le truc de... Voilà, ouais. Chacun son espace et...
Et puis... Les vécus des uns et des autres ne sont pas du tout les mêmes. Et donc, les jugements sur les ressentis des autres et les manières de vivre ne sont pas les mêmes. Donc, vraiment, écoutez, parce que ça te permet de voir les choses sous un autre angle aussi.
C'est beau ce que tu dis.
Ouais, je sais. Là, je me vois une couronne de diamants en plastique me tomber sur la tête.
Pourquoi est-ce que tu as eu besoin de devenir féministe?
Est-ce que j'ai eu besoin de devenir féministe? Pouah! D'abord, genre, oh, pouf! Attends, répète! Quoi?
Qu'est-ce qu'il dit, la madame? Je veux dire, il y a des femmes qui sont pas du tout attirées par ça, qui ne veulent pas le devenir, qui sont...
Mais je sais pas si je veux devenir féministe, en fait, en vrai.
Est-ce que tu es féministe? Tu n'es pas
féministe? Je pense que oui, mais en tout cas, c'est surtout une démarche active de « j'ai envie de me renseigner parce qu'il y a des choses qui me mettent en colère ». Et plus je me renseigne, et plus je me rends compte qu'il y a vraiment de quoi être en colère.
Donc maintenant, c'est de la colère, en fait.
C'est une forme de colère de. Mais pourquoi en fait il y a autant d'un. Oh putain, pourquoi il y a autant d'injustice? Mon Dieu, ça y est, j'y retourne.
Mais
je veux dire, il n'y a pas une
médaille.
Non. Oui, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas une petite médaille de « maintenant, je suis féministe. Regarde, je peux l'épingler à ma veste. » Je pense vraiment pas. Je pense que n'importe qui peut dire « je suis féministe. »
Oui,
pour plein de raisons différentes.
Mais tout le monde ne le dit pas.
En fait, il y a des gens qui croient que c'est juste être hystérique parce que c'est un stéréotype qui vise justement à discriminer le discours que tu as, à dire que c'est de la merde ce que tu dis. Que ce soit parce qu'il y a toujours des vieux cons qui te disent que... Je viens de dire quoi, qu'on devait s'écouter, se respecter, c'est ça? Parce qu'il y a toujours des vieux cons qui disent que ça sert à rien.
Il y a des jeunes cons aussi. Hein.
Ouais, c'est vrai. Ne faisons pas d'agisme. Ouais, c'est vrai, t'as raison.
Pas d'agisme, pas de discrimination et de jugement dans ce podcast. On n'a pas de tabou, on insulte tout le monde.
Exactement.
Pareil.
Donc,
il y a des vieilles connes aussi et des jeunes connes.
Exactement.
C'est quoi ton expérience de la misogynie ?
Oh, c'est drôle parce que je suis sûre qu'il y a plein d'autres exemples plus intéressants qui pourraient me venir, mais le truc auquel je pense tout de suite, c'est je suis petite, je peux pas me lever, je suis chez mes grands-parents, on mange le samedi soir et je suis pas censée me lever de table quand je veux parce que c'est comme ça qu'il y a des règles, et que je vois mon grand-père attendre que ma grand-mère se lève pour lui demander de servir des trucs. Et ça, je pense que c'est la première expérience de misogynie qui m'a vraiment foutu très mal à l'aise. Depuis...
Attends, recommence quoi ? T'es à table ?
Je suis à table et je regarde... Enfin, on est en train de manger. Et en fait, mon grand-père attend que ma grand-mère se lève pour des trucs, mettre des trucs à table ou aller chercher quelque chose, pour lui demander de lui amener des trucs. Genre, elle n'a pas sorti le jambon qu'il avait envie. Il va attendre qu'elle soit debout pour... peu importe s'il est plus près du frigo, peu importe. Enfin, voilà. Donc ça, je pense que c'est la première fois où je me suis dit... C'est quand même vraiment bizarre ce qui se passe. T'as qu'à lever tout cul. Puisque toi tu peux, moi je peux pas, mais toi tu peux. Il y a la misogynie au quotidien, la misogynie au quotidien du style tu sors dans la rue et tu sais jamais trop si tu vas te prendre une réflexion ou pas. Il y a celle que t'as intégrée, parce que même si tu te prends pas de réflexion, bah t'as pas mis une jupe pour sortir le soir, putain. Ça tu t'en veux quoi. Enfin moi je m'en veux. Je m'en veux de pas encore arriver à faire juste fuck off, j'y vais. Je me souviens avoir postulé pour un job et. auprès de gens que je connaissais un peu, et où on m'a demandé très clairement si je comptais avoir des enfants. Et je me suis quand même dit, enfin dans les prochaines années là, comme ça, et je me suis quand même dit, ah oui, dans ce secteur-ci, avec ces gens que je pensais être
ouvert.
Alors je me suis dit, oui, bah comme quoi c'est partout. Et je me souviens avoir laissé un gros blanc. Elle me dit, allez, j'y vais pas, je leur
explique. J'en veux 6.
Non, c'est même pas ça, c'est... Je leur dis à quel point c'est déplacé. J'avais quand même envie de réussir cet entretien. Ouais. Je me suis lâchement écrasée.
Selon toi, c'est quoi le problème du féminisme ou un problème du féminisme ?
Mais peut-être le syndrome de la première de classe qui peut être un peu décourageant. Tu sais, ce côté un peu... Je sais mieux, j'ai lu plus de trucs, et du coup, tu devrais pas parler comme ça, n'emploie pas ces mots-là. C'est vrai, évidemment que c'est vrai. Mais je trouve que ça peut être un peu décourageant parfois. Mais il y a quand même un truc un peu chiant à toujours vouloir
donner
des leçons. Et je trouve que c'est une dérive qu'on a facilement, que j'ai aussi, et que je me dis, allez, non, s'il te plaît, fais pas ça, c'est chiant, quoi.
Garder sa première de classe en tchèque, quoi.
Ouais.
La garder à sa place.
Exactement. Garde ta première de classe, comme ça, l'autre, elle a envie de continuer à apprendre, et elle se dit pas juste, oh putain, que l'œil près de la prof tirer ses bons points, quoi.
De quoi a besoin le féminisme actuel ? Selon toi, là, tout de suite, maintenant, à l'heure
actuelle. Bah, quand je parlais d'écoute tout à l'heure, je pense que c'est, encore une fois, Miss Univers qui revient, mais... de pouvoir s'écouter pour pouvoir mener des combats ensemble, même quand on n'est pas d'accord. La convergence des luttes, je pense que c'est vraiment un truc super important. Et que c'est pas forcément diluer son propos, mais que vraiment on peut arriver... Enfin, c'est comme ça qu'on arrive à bâtir des choses, je pense. C'est pas en étant chacun dans son coin.
La toute dernière question, c'est selon toi, c'est quoi l'avenir du féminisme ?
Ben, je te l'ai dit tout à l'heure que c'était... J'avais appris sur moi. Et ce que j'apprends sur moi, c'est plutôt moche. Je suis assez pessimiste. Par contre, en me questionnant justement sur ces motifs d'exclusion, le fait de devoir
segmenter en fait la cause.
Exactement, devoir segmenter la cause et toujours dire oui mais toi tu ne peux pas comprendre parce que tu n'as pas cette discrimination que moi j'ai, etc. Et ce qui est très vrai, mais ça me posait quand même vraiment problème. Je me dis comment est-ce qu'on fait alors pour dire nous, encore une fois, mm-hmm. comment est-ce qu'on fait pour dire nous si on n'est pas si on n'a pas les mêmes discriminations et que du coup je peux pas te comprendre et que tu peux pas me comprendre. Mais par contre moi il y a quelqu'un qui m'a donné beaucoup d'espoir à ce niveau-là. C'est Judith Butler, Sainte Judith, hein, je crois qu'elle aimerait pas, mais Sainte Judith, c'est comme ça que je disais vraiment.
Elle a l'espoir dans le cœur de Malvine.
Elle a écrit un bouquin qui s'appelle Rassemblement, alors le sous-titre, je l'ai à côté, donc je me permets de te dire
vas-y,
le sous-titre. Rassemblement, pluralité, performativité et politique. Elle aime les mots en P. Voilà, justement, elle explore ce chemin de comment on fait quand on peut pas dire nous pour quand même travailler ensemble. Dans son livre « Troubles dans le genre », c'est un peu ce qu'elle dit. Elle parle justement du fait qu'on ne peut pas se reconnaître tout le temps l'un dans l'autre et que le « nous » des femmes du féminisme qu'on avait dans les années 70, par exemple, n'est pas possible. Et du coup, moi je me demandais vraiment, mais alors comment on fait ? Et elle l'explique dans d'autres bouquins aussi, mais dans « Rassemblement », elle est vraiment... Elle se saisit de ça et elle dit « mais si, on peut travailler ensemble même quand on n'est pas d'accord, parce qu'il y a des combats sur lesquels on peut s'allier quand même ».
Et le bouquin qui est à côté de toi est rempli de signés.
Ouais.
Voilà. Beaucoup de post-it. Beaucoup de choses qui t'ont marqué.
Beaucoup de choses qui m'ont marqué. Ouais.
Et alors. J'ai pas envie de lire un extrait en fait.
En fait, peut-être, mais vu que je ne sais pas ce sur quoi je vais tomber, j'ai un peu peur de ne pas tomber sur un truc intéressant. Comme chacun sait, tout le monde ne jouit pas de la capacité de marcher dans la rue ou d'entrer dans un bar sans se faire harceler. Marcher seul ou seule dans la rue, sans craindre le harcèlement policier, ce n'est pas marcher en compagnie d'autres personnes et avec la sorte de protection non policière que cela confère. Pourtant, quand une personne transgenre marche dans une rue d'Ankara ou entre dans un McDonald's de Baltimore, la question se pose de savoir si ce droit peut être exercé par un individu seul. Chaque jeu porte avec lui un « nous ». Quand il ou elle pousse ou tire une porte et se retrouve dans un endroit clos, non protégé ou exposé dehors dans la rue, on peut dire qu'il y a un groupe, sinon une alliance, qui marche aussi là, qu'il soit visible ou non. Bien sûr, c'est un individu seul qui marche là, qui prend le risque de marcher là. Mais cette allure, cette manière de marcher, ce mouvement singulier dans le monde, sont aussi traversés par une catégorie sociale. Et s'il se produit une attaque, elle cible en même temps l'individu et la catégorie sociale. Peut-être peut-on qualifier de performatif à la fois cet exercice du genre et cette demande politique incarnée d'égalité, de protection contre la violence. En fait, ce qu'elle dit, ce qui m'a surtout marqué, c'est « chaque jeu porte avec lui un nous ».
Du coup, on a recommandé quelques bouquins sur le cours de cet épisode. Ouais.
Ma première claque,
c'était King Kong. Theory.
Ouais, King Kong Theory.
Ma claque à moi, c'était Anaïs Bourdet avec Paita Schneck.
Ouais.
Et le rayon de lumière dans le cœur de Malvine. Dans le cœur pessimiste de Madeline, c'est Rassemblement de Judith Butler.
Ouais.
Super. Merci beaucoup.
Merci à toi.
Et ben voilà, je me sens moins seule au royaume des paumés, moi. Et j'ai bien l'impression que ce chemin va être long, très long, voire sans fin, mais passionnant aussi. D'ailleurs, ça m'a donné envie d'aller voir du côté des écoféministes. On se retrouve au prochain épisode. Salut les paumés.